Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio Économique. Le moment de la semaine où on essaie d'être intelligent. Je sais, c'est louche, on invite Vincent, mais bon, c'est pas grave. Il y a des études. Comment va ta course à la chefferie, mon homme?
Écoute, il faut libéraliser les libéraux.
Ouais, c'est ça.
Il faut libéraliser les libéraux.
C'est le parti qui... Qui a des grandes valeurs libérales.
Oui, dont la nationalisation de l'électricité, la nationalisation de l'hydrogène, la nationalisation du système de santé, la nationalisation.
Ouais.
C'est toutes des valeurs libérales, ça.
C'est
dans le monde des valeurs libérales.
Ouais, il y avait aussi la justice sociale, celle-là. J'aime ce genre de terme-là. Tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça paraît bien.
Surtout que moi, je regarde tous les penseurs libéraux du 20e siècle, là, des libéraux comme par exemple Hayek ou Mises, qui croient qu'il y a un État qui a une taille optimale, que l'État doit faire certaines choses, mais laisser le reste à la société civile. Eux autres, là, ils écrivent tout le temps justice sociale, partout. Ils n'ont jamais écrit des trucs qui disaient le mythe et le mirage de la justice sociale. Jamais. C'est tous des gens qui ont une certaine absence de profondeur intellectuelle qui rivalisent. J'ai pas de problème à dénigrer le Parti libéral pour son absence de libéralisme.
C'est surtout que c'est un fait, là, rendu là, c'est même pas de la médisance, c'est juste...
À un moment donné, il faudrait aussi qu'on se plaigne au bureau de la concurrence, là, au ministère de la Justice, parce que c'est de la fausse représentation, mais grave, là, je veux dire.
Production consommateur.
On peut faire un recours collectif, un peu comme l'histoire du gingembre dans le ginger ale.
Ça a fini avec un paiement, ça, cette affaire-là?
Oh, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait reçu un chèque de 7 piastres.
Hey, ça, c'est recours collectif, là. C'est tout le temps drôle, tu sais, puis...
C'est tout le temps le même avocat, en plus, qui est prêt. Je suis sûr qu'on le contacte pour, disons, faire un port recours collectif à cause qu'il n'y a pas de libéralisme dans le Parti libéral.
On reçoit tout 15 piastres par la poste.
Tu remplis le truc. Oui, j'ai voté pour eux en 97, 98, puis là... C'est 2 piastres par année de refund.
Ça serait magique.
Le problème, c'est que moi, je n'obtiendrai pas une scène. J'ai jamais voté. Non, c'est pas vrai. J'ai voté une fois libéral quand j'étais beaucoup plus jeune. En 2008, ma meilleure amie se présentait dans... Quand je vivais dans Hochelaga, j'ai voté pour ma meilleure amie qui était candidate libérale dans Hochelaga Maisonneuve. Bien sûr, vous pouvez vous imaginer, elle est devenue députée.
Oh!
Non. C'est un Hochelaga Maisonneuve, ma tête.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Un peu ça, je me disais.
Non, je suis pas Montréalais, moi. Je me fais pas la carte de Montréal vite dans ma tête.
Mais c'est correct. C'est pas tout le monde qui peut avoir de la culture.
Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui connaît la géographie de l'île au génie. Là. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'on commence à enregistrer, Vincent, il disait moi, j'ai du respect, mais plus pour les politiciens municipaux. Puis là, ben, ça m'a permis de rappeler, puis je vais le faire pour les auditeurs.
On sort le Hall of Fame des maires du Québec.
Oui, ben en fait, c'est mon maire préféré. Mais maire, c'est...
C'est péjoratif, là.
Ben, maire, c'est manquer de respect quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est le cas de le dire dans le cas présent. Mon maire préféré de tous les temps reste Denis Tremblay. Of course, il s'appelle Tremblay quand même. Ça quand même resté dans la thématique. Donc, Denis Tremblay était le roi de l'Anse-Saint-Jean. Et là, pour la petite histoire, c'est qu'en 1997, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand même un peu une histoire loufoque, là. En 1997, il y a plus de 25 ans maintenant, Denis Tremblay devient Denis Ier. Roi de l'Anse-Saint-Jean et donne du même coup naissance à la première monarchie municipale. L'événement attire plus de 1500 personnes, dont des journalistes de partout dans le monde. Le professeur d'art de l'Université du Québec à Chicoutimi veut, par cette performance artistique, relancer le tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut dire qu'à l'époque, la région se relève à peine du déluge de 96. Et là, il y a vraiment des photos d'archives où tu as un genre de curé qui y met une couronne sur la tête. Puis le gars devient réellement roi de l'Anse Saint-Jean. C'est quand même un accomplissement. Et ben, moi, je trouve qu'il y a un...
réaliser ce que moi, je rêve de faire avec les Caraïbes.
Ben, il y a une dimension gélosienne à cet acte-là, il faut le dire.
Ouais, absolument, absolument. Si j'avais été élu maire d'une ville de 400-500 personnes, c'est exactement ce que j'aurais fait. Puis non seulement ça, mais j'aurais dit ouvertement que la meilleure gouvernance, c'est aucune gouvernance. Ouais, j'aurais juste dit, je ne vais rien faire, puis je leur donne mon salaire. Non, c'est pas vrai, je vais le garder pour m'acheter une île dans la Caraïbe.
Mais tu aurais pu mettre des dispositifs du genre toutes les amendes que la ville te donne, par exemple pour stationnement ou whatever, sont soit payables ou peuvent être annulées si tu me prêtes serment.
C'est une bonne idée.
Comme ça, si jamais PSPP vient dans ta ville, là, il va être dans un méchant dilemme moral. Je paye-tu mon ticket de parking ou je prête serment au roi?
Non seulement ça, mais on va le faire en anglais.
C'est ça.
Juste pour lui.
Juste pour lui, ce serait magique. Ah, mais trêve de plaisanterie, parce que dans le dernier épisode, c'était un épisode Q&A où on répondait aux questions des auditeurs. Puis là, ben, pendant que je parle, j'essaie de retrouver à brûle pour point la question, parce que des fois, il y a des gens qui posent des bonnes questions, mais c'est long à répondre. Donc là, c'est difficile de prendre. Je vais le retrouver ici parce que je vous l'avais envoyé par.
Oui, puis Antoine est bon là-dedans à poser ce type de questions-là. Fait que là, on va faire plaisir à Antoine aujourd'hui. On va répondre à sa question. Puis Antoine, qui est un auteur d'ailleurs, je vais en profiter de plugger son livre. Il vient de publier un livre il y a à peu près trois semaines environ. Antoine, c'était tout qu'un joueur de baseball quand il était plus jeune. Puis il a joué pour les Ailes du Québec, qui étaient carrément l'équipe élite de jeunes, puis là, j'espère que je ne me trompe pas, c'est 17 ans et moins. Ils ont eu, semblerait-il, une saison de rêve en 2003. Et il a carrément fait un travail journalistique sur cette saison de rêve-là en 2003. J'ai acheté son livre, c'est 20$ sur Amazon. Ça a l'air vraiment bien fait, sérieusement. Quelque chose que je vais vous suggérer, mais qu'on commence la question pour Vincent. En l'instant,
Ok, tu vas le trouver, le lien du livre.
Je vais le trouver, puis je vais vous l'envoyer.
Un pour tous, pour l'art, ça se peut-tu que ce soit ça?
Exactement, ça devrait être ça.
OK, je l'ai ici, je vais le partager à l'écran.
On a des Patreon auteurs à l'intérieur du podcast. C'est vraiment des imbéciles qui nous suivent. Gardez toujours ça en tête.
Oui, absolument.
On écrive des livres, là, mais c'est des caves. C'est vraiment des caves.
Ben écoute, Patrick Lagacé écrit des chroniques, hein?
Ouais, ben c'est ça. Écoute.
Vincent.
Écoute.
Parce que pas dans marde.
Il va envoyer une copie de ce livre-là à Richard Labbé, tu vois, ça va faire sa journée.
On est vraiment dans le manque de généreux aujourd'hui. Hein?
On est tous
dans le même mode où on est comme j'ai plus de patience pour ça.
Ah, c'est ça. Donc, dans le Q&A, il y avait plein de questions qui étaient posées. Puis celle-là, bon, on avait décidé de la reprendre pour un épisode plus complet parce que c'est comme compliqué de répondre à ça en 3 minutes. Là. Antoine qui disait, je renchéris sur la question que j'ai posée à Vincent concernant le pourquoi le monde s'est enrichi énormément à partir de 1800. Il avait expliqué à ce moment-là que c'était principalement dû au changement des institutions, faisant en sorte qu'un découvreur avait plus d'incitatifs à innover en sachant qu'il ne se ferait pas spolier de façon arbitraire par un roi. Maintenant, ma question est, quels sont les principaux déterminants expliquant une volonté de changer les institutions fin 1700 jusqu'à la fin des années 1800? C'est quand même une très bonne question, il faut l'avouer. Là.
Sérieux, c'est la question. En fait, soyons honnêtes, là, la question, ça vient à une autre question qui parle vraiment à ça, c'est pourquoi... C'est en Grande-Bretagne que ça commence. Pourquoi pas avant, pourquoi pas ailleurs? C'est vraiment, si un économiste ou un historien réussit à convaincre le reste de ses professions de la réponse qu'il donne, il gagne le prix Nobel. Les historiens ne gagneront pas de prix Nobel, mais ils vont avoir un poste à Harvard, puis ils vont pouvoir faire bien des contrats de livres, puis ils vont devenir l'historien présidentiel, puis plein d'affaires comme ça. Si tu réponds à cette question-là, t'es une sommité. C'est la grosse question en débat. Puis la raison, c'est que tu as eu plusieurs efflorescences avant, la Grèce antique, certaines périodes dynastiques en Chine. J'inclus pas l'Empire romain dans ça parce que ça ressemble plus à une continuité de ce que la Grèce antique faisait. Mm-hmm. Il y a les Pays-Bas du 16e, 17e siècle. Il y a l'Italie de la Renaissance. Et la question, c'est pourquoi toutes ces places-là n'ont pas fonctionné. Généralement, la réponse, oui, parle des institutions. Donc, il y avait dans tous ces cas-ci un État qui se restreignait un peu, qui avait un environnement qui favorisait la liberté économique à toute fin pratique. Mais ça ne répond pas à la question de comment tu fais pour l'avoir, la liberté économique. Ça, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas une réponse facile. Je ne sais même pas par quel côté attaquer cette question-là quand je l'enseigne à mes étudiants. L'angle de quel j'ai, c'est vraiment de parler des cas qui ont échoué avant, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'Angleterre qui était unique. Mais les théories sont vraiment complexes. Il y en a qui vont dire que c'est le rôle des technologies, le rôle de la géographie. Donc, par exemple, la Grande-Bretagne a accès à des ressources qui sont relativement sécuritaires, mais aussi en certaine abondance, donc notamment le charbon. Et sa sécurité fait en sorte que même s'il y a des guerres, elle est quand même protégée des chocs que les invasions posent, ce qui n'est pas le cas pour l'Italie de la Renaissance, pour les Pays-Bas de l'époque moderne. Donc, il y a quelque chose qui manque. Des fois, on va avoir un cadre qui va essayer d'expliquer en disant que c'est les réformes parlementaires qui ont commencé avec la Magna Carta.
Ben c'est ça que j'allais dire. C'est quoi le rôle de la Magna Carta là-dedans? Parce que je suis dans le texte en ce moment, parce que c'était l'intuition que j'avais un peu, là. Mais tu sais, quand tu vois des dispositifs comme ne pas entraver l'application des droits en arrêtant les hommes libres de façon arbitraire, c'est quand même des éléments vraiment important que tu ne retrouves pas ailleurs.
OK, faut quand même... Oui, OK. Fait que là, détail là, pour les auditeurs. La Magna Carta, c'est la grande charte que le roi signe. Puis là, je mets des air quotes parce que je sursimplifie l'histoire. Mm-hmm. Mais le roi signe avec des barons qui se sont révoltés contre lui. Puis les raisons sont assez complexes, mais en partie, c'était que le roi essayait de collecter des taxes sur ces barons-là. Aussi, ils couchaient avec leurs femmes, beaucoup. C'est vrai, pour vrai, il y a un aspect de conflit de personnalité qui est vraiment présent dans l'insurrection des barons. Mais il y a une première charte qui est signée en 1215 qui dit qu'il doit avoir consultation. Mais cette charte-là n'est pas respectée initialement. Là, ça prend. Il y a trois versions. On dit la Magna Carta aujourd'hui comme s'il y en avait une, mais en réalité, si je ne me trompe pas, il y en a trois. La première est complètement violée 6 mois après qu'elle est signée. Il y en a une autre qui est re-signée quelques années plus tard.
En 1225, puis une, je pense, en 1297, quelque chose
comme ça. C'est ça, c'est la troisième. Mais là, il y a quand même 85 ans à peu près qui se sont passés entre la première et la troisième charte. Donc là, c'était pas un changement très, très rapide. Puis même la troisième charte donnait encore des pouvoirs assez importants au roi.
Mais tu as créé une brèche.
L'argument des gens qui défendent ça vont dire que... puis je suis quand même assez... je suis dans ce camp-là parce qu'il y a une troisième explication. Donc, j'ai dit géographie. Celle-là, c'est l'idée que tu as eu une accumulation de contraintes qui se sont créées. Puis l'idée, c'est que plus tu crées des... Ça revient pas mal à tout ce que je dis tout le temps. Si tu crées des contre-pouvoirs, si tu crées des systèmes de balancier, le roi est un peu obligé de... consulter avec d'autres parties, mais il doit aussi s'aligner. Et dans ce cas-ci, tu as un peu t'as un système de check and balance qui émerge graduellement. Ça vient avec aussi, par exemple, le rôle des barons dans l'administration des taxes, mais aussi dans le fait que le roi ne peut pas violer certaines propriétés impunément sans l'accord des barons. Donc, ça crée une sorte d'alignement des incitations. En fait, ça revient à ce que je dis tout le temps. Ce qu'on veut, ce n'est pas des dirigeants qui font la bonne chose. On ne veut pas les bons dirigeants. On veut un système qui fait en sorte que même les mauvais dirigeants se sentent obligés de faire la bonne chose. L'idée, c'est que tu te pousses un petit peu plus vers ça avec ces institutions-là. Le problème de cette explication-là, que après ça s'accumule là, jusqu'à le moment charnier qui est la Révolution glorieuse de 1688, où est-ce que là, tu as un monarque qui vient des Pays-Bas, toute fin pratique, qui arrive, qui devient roi d'Angleterre, mais dans l'entente pour qu'on dépose l'ancien roi, puis qu'on le place lui comme roi, il doit respecter le Parlement. Donc, il y a une sorte d'entente qui est imposée. Ou est-ce que là, tu deviens vraiment une monarchie constitutionnelle dans laquelle le monarque a beaucoup moins d'influence? Et là, tu commences à avoir beaucoup plus des contrebalanciers, des contre-pouvoirs qui commencent à émerger. Le problème, c'est que de cette explication-là, puis c'est ça qui crée une résistance, c'est que tu avais des parlements en Hongrie, en Islande, en Espagne, en France, en Pologne. Tu avais des institutions qui faisaient aussi des formes de contre-pouvoirs qui ont émergé dans la période du haut Moyen-Âge. Et on est, ça ne dit pas pourquoi l'Angleterre est unique dans ce cas-ci. Il y a quelque chose d'autre qui doit embarquer. Un troisième groupe se divise, lui, en deux. C'est que tu as ceux qui parlent, comme Leonard Dudley, du rôle de certains changements technologiques qui te poussent dans une voie particulière et que tu ne peux plus vraiment sortir de cette voie-là. Lui pointe le fait que les langues en Angleterre, l'imprimerie, la distance à la chose, avec les taux de literacy, d'alphabétisation de la population, ont créé une standardisation du langage en Grande-Bretagne qui facilitait le commerce davantage. Cette explication-là est intéressante, je ne suis pas sûr qu'elle explique tout, mais aussi le langage de politique. Mais la plus grosse explication, celle-là, je ne suis vraiment pas convaincu, mais c'est l'idée qu'une fois que tu avais quelques petites brèches, tu as créé une culture de la liberté en Angleterre qui était spécifique à la Grande-Bretagne. Ça, c'est Deirdre McCloskey qui en parle le plus. Elle parle des vertus bourgeoises. La minute qu'on a commencé à restreindre l'État, on a permis un peu de liberté économique. Tu as eu des nouvelles valeurs qui sont émergées chez les gens. Sa phrase à elle, c'est « motivated by dignity, but enabled by economic freedom ». Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on en est venu à arrêter de donner le pouvoir à des dirigeants, nos relations ont commencé à se diriger vers comment est-ce que je fais pour m'enrichir en profitant toi aussi, comment est-ce qu'on fait pour faire un échange qui est mutuellement bénéfique, que j'essaie plus de voir la manière de m'enrichir comme d'aller voir quelqu'un qui va utiliser une épée pour te forcer à me donner de l'argent ou te forcer à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. L'idée dans ce cas-ci, c'est là ce qu'elle appelle les vertus bourgeoises, l'enrichissement, la recherche de profit, l'accumulation de capital humain pour des fins uniquement personnelles. Elle parle vraiment de l'individualisme comme une bonne chose, mais qui émerge en Grande-Bretagne parce qu'on l'a laissé fleurir. Et ça vient aussi avec un autre gars qui travaille là-dessus qui s'appelle Joel Mokyr. Les deux, c'est des gros noms en économie et en histoire. Joel Mokyr, Deirdre McCloskey, c'est des deux plus grands historiens économiques. En fait, chaque année, là, leur nom apparaît pour des mentions pour un prix Nobel. Genre, c'est pas super plausible qu'on donne un autre prix Nobel à des historiens économiques parce qu'ils l'ont fait en 93. Fait que généralement, il y a comme une sorte de cycle. Fait que ça m'étonnerait qu'il y en ait un autre qui est donné. Puis surtout qu'il y a bien des affaires qui touchent pas. Que tu peux donner à des gens qui font de l'histoire économique, mais qui ont un autre domaine principal. Je suis arrivé genre avec Bill Nordhaus il y a une couple d'années. Ouais. Mais eux autres sont mentionnés souvent, mais eux, ils défendent la thèse qu'il y a un rôle de la culture. Le problème, c'est que ces choses-là, puis ça, c'est là le pushback, c'est comment je fais pour mesurer ce qui se passait dans la tête de gens qui sont morts il y a très longtemps. Bon, on a des nouvelles méthodes qui sont disponibles. On a ce qu'on appelle le machine learning. On a textual analysis. On a plein de méthodes causales qui nous permettent d'essayer peut-être d'identifier quelque chose. Mais c'est vraiment difficile d'arriver à une réponse. Fait qu'il y a vraiment un débat gigantesque là-dessus. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de résolution.
C'est sûr que la culture a une influence là-dedans, mais ça ne répond pas à la question « pourquoi en Angleterre? » Moi, c'est surtout ça mon affaire, parce que en réalité, c'est toute la mouvance de ce qu'on appelle les Lumières. Ça a déferlé partout en Europe et en Angleterre aussi, mais il y avait ça en Allemagne, puis ça n'a pas donné lieu à la même chose en Allemagne qu'en France, qu'en Angleterre, qu'en Italie, que partout, là. Pourquoi cette influence-là? Pourquoi si... Tu sais, oui, ça a eu une influence, mais je pense pas que c'est ça qui explique pourquoi particulièrement l'Angleterre.
Ouais. Frank, j'ai envoyé un lien YouTube. T'as-tu connu Brigitte Pellerin puis John Robson, Vincent? Ben oui, c'est assez évident.
John plus que Brigitte.
T'as plus connu John? Moi, j'ai plus connu Brigitte au Réseau Liberté Québec à l'époque. Elle était quand même assez proche de nous. Ils ont fait un documentaire sur la Magna Carta. Ça s'appelle « Magna Carta, Our Shared Legacy of Liberty ». C'est sur YouTube, il est disponible. Ça a été crowdfunded. Un gros travail de recherche qui a été fait. Un film carrément de 2 heures là-dessus. Mm. Fait que j'ai beaucoup de misère à ne pas vous le suggérer. Là.
il est effectivement très bon. Je me souviens de l'avoir vu. Le problème, c'est que même dans celui-là, le gros problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi la Magna Carta a stické. Parce que là, ça, c'est un autre problème avec les institutions. Le roi, quand il fait une entente avec l'autre partie, c'est qui le enforcer? C'est qui la personne qui va faire respecter le contrat? Ça, c'est le gros problème. C'est comment tu fais pour en venir que ces termes-là vont être respectés?
On peut dire que Magna Carta, c'est un peu comme le Bitcoin, dans le sens que il y a un système de règlement qui a été mis en place, mais on ne sait pas exactement qui le gère, mais ça fonctionne.
Non, dans le fait, en fait, il y a un de mes collègues, Peter Leeson, je vais envoyer le lien à Frank. Il y a deux Yann en passant.
C'est ouais, Yann, ça pourquoi Yann. Je m'appelle Yann, moi, encore.
Oui, c'est ça.
Parce que tu as reseté ton restring. Il y a un petit bug dans le restring des bouts. Okay.
Mais en gros, Peter puis son étudiante, Paola, qui était ici à George Mason, eux, ils disent que la raison que ça a éventuellement fonctionné, la troisième Magna Carta à toute fin pratique, c'était que dans la troisième version, il y avait vraiment des contraintes qui étaient installées, qui permettaient de faire en sorte que là, ça devenait self-enforcing, que tu n'avais pas besoin d'une tierce partie pour faire l'imposition des règles que les deux parties s'étaient mis en entente. Ouais. L'entente donnait des sortes de pouvoirs qui faisaient en sorte que les deux parties se contraignaient. Mais aussi, c'est que ça, c'est la partie qui est difficile, c'est que des fois, il y a vraiment des parties accidents de l'histoire. C'est qu'il faut que ça, des fois, c'est que les contraintes de juré fit avec des contraintes de facto. Donc, si, mettons, on disait, là, on fait une entente ici que Yann n'a pas le droit de m'attaquer, mais Yann a un gun, Yann a un tank, puis moi, je suis en chaise roulante. OK? Je veux dire, il est où le mécanisme? La contrainte de ça, puis je dis, ah, oh, mais je vais juste lui refuser l'argent que je lui donne dans les échanges. Ah, oh, mais il a juste à me menacer, puis prendre mon argent, puis c'est tout. Alors qu'en réalité, ce qui est possible, c'est que je peux dire qu'il y a une manière, disons, pour moi, de cacher mon argent malgré qu'il y a des armes à feu. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de mécanisme qui nous incite tous les deux à faire en sorte que la coopération entre nous deux devienne mutuellement bénéfique, même si.
Il va falloir que tu sois gentil en sacrifice.
Ben, je comprends. Mais l'idée, c'est que si, mettons, disons, OK, on va faire le jeu, ça s'appelle le jeu des biens publics. C'est vraiment ça le nom. Toi puis moi, on se rend compte. Là, je fais une sursimplification, puis je vais le présenter avec une petite erreur, mais ça ne dérange pas pour le cas ici. Toi puis moi, on doit produire un service comme, disons, des cours de justice. Moi, j'ai l'expertise, la connaissance de la tradition. De toutes les traditions orales. Donc, je peux faire du droit coutumier. Puis toi...
Moi, j'ai les guns.
Puis toi, tu es celui qui fait la force de police. Bon, tu pourrais dire, Vincent, tu vas faire ce que moi, je te dis. Puis on va se partager la cote des frais de justice ou des pénalités, de peu importe ce qui est chargé aux parties qui sont jugées coupables dans n'importe quel différent. Mais là, tu me dis, mais Vincent, il faut que tu agisses. Mais moi, par contre, les gens viennent me voir. Ça, c'est un détail qui est important. Les gens viennent à mon tribunal parce que je suis impartial. Parce qu'ils savent qu'ils vont me payer. Il faut qu'ils trouvent l'arbitre le plus impartial. Fait que là, il y a comme une sorte de dimension de justice for profit. Mais j'ai besoin des armes à feu de Frank pour qu'une fois que j'ai donné mon jugement, qu'il y ait quelqu'un qui impose et que la seule pénalité qui me reste, c'est que les gens peuvent se cacher. Mais Yann pourrait dire, Vincent, je te dis de prendre cette décision-là parce que lui, il est plus riche que l'autre puis je peux saisir de lui. Ou lui, il est plus faible que l'autre, fait que je peux saisir de lui plus facilement. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que bon, mais moi, je vais perdre de l'argent dans l'avenir. Yann pourrait me dire, je vais te menacer. Mais parce que la connaissance est purement dans ma tête, que moi, j'ai tous les faits dans le fond de ma tête, Yann peut Il pourrait me menacer, mais s'il me tue, s'il me blesse, il perd accès à cette connaissance-là. Et ouais. Là, il perd accès à tous les flots de revenus futurs. C'est un exemple que je viens d'inventer littéralement en the spot, mais ça parle à l'idée. C'est parce que moi, j'ai un mécanisme pour faire du exit, je peux priver Yann d'agir de manière opportuniste. De la même manière que Yann peut dire, ben, je ne vais pas aider Vincent, il fait pas sa job comme il faut. Donc, les deux, on a comme une sorte de mécanisme qui fait en sorte que l'entente qu'on fait est self-enforcing. C'est ça qui fait que la Magna Carta, la partie qui est difficile à expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'éventuellement tu as réussi à faire quelque chose qui est self-enforcing, qui n'a pas besoin d'un tiers parti pour venir faire l'application. Mais
l'autorégulation, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les organes professionnels, par exemple. Tu sais, il n'y a aucun organisme professionnel qui veut que le gouvernement vienne le réglementer, généralement. Ils vont dire, on va se mettre en place un mécanisme d'autorégulation parce que la profession, d'une certaine façon, a besoin de s'épurer de ces éléments dangereux qui peuvent venir brimer la confiance du public envers la profession. Fait que les organismes professionnels vont avoir cette tendance-là à dire on va s'auto-réguler parce qu'on ne veut pas que le législateur le fasse à notre place. Puis d'une certaine façon, il y a une logique derrière ça. Tu dis, on est pas mal mieux de se nettoyer nous-mêmes que d'avoir des scandales dans la société qui amènent le gouvernement à venir intervenir. Fait que c'est quand même
exemple classique, Yann, exclure, mettons, des charlatans.
Exact.
Certains corps médicaux, tu sais, paramédicaux, etc.
Exactement.
Ah ben, y a quand même une nuance assez importante ici, c'est que des services comme, disons, les services d'un couvreur ou d'un menuisier, c'est tout des services que tu peux volontairement contracter comme consommateur et choisir de ne pas consommer. Ce qui parle de la nature de l'État, c'est que là, il y a un élément de coercition qui est présent. Parce que quand on débat du rôle de l'État ici, c'est comment tu fais pour avoir un État qui n'est pas un État prédateur? Parce que les États médiévaux se sont, à toute fin pratique, dans la catégorie beaucoup plus proche de le dirigeant ne produit pas tant que ça des biens publics qui augmentent
la taille du...
C'est ça. Il y a beaucoup d'abus. Mais tu as aussi un autre problème, tu as un autre type d'État qui s'appelle l'État redistributeur, parce que là, tu prends certaines personnes pour redonner à d'autres. Prédateur, c'est vraiment extrême. C'est des autoritaires extrêmes.
Mais l'État redistributeur, façon, ça se fait aujourd'hui. L'homme le plus riche de la planète, il y a beaucoup de gens qui soupçonnent que ce soit Vladimir Poutine, par exemple.
J'ai aucun a priori sur ça.
Les gens ne savent pas, mais ce que je veux dire, c'est... Justement, on ne sait pas parce que le gars peut avoir de l'argent caché partout un peu sa planète, mais on soupçonne ça parce qu'on se dit le dirigeant de la Russie a tendance à agir d'une manière en mode prédation avec ses pas ses sujets parce que c'est pas une monarchie, là. Mais on comprend un peu le principe. Je veux dire, c'était beaucoup difficile dans le temps des seigneuries, dans le temps du Moyen-Âge, tout ça, de développer... de la productivité dans les champs et tout ça, parce que on venait carrément spoiler les bénéfices d'exploiter la terre des gens, carrément. Ce qui était dû au roi était tout le temps de plus en plus grand. Il n'y avait pas de possibilité réellement de réinvestir les profits excédentaires sur sa terre ou des choses comme ça. Il y avait ce spoiling-là qui s'effectuait, puis dans ma tête, ça privait la société, si on veut, de beaucoup d'innovation. Parce que l'entrepreneur qui est capable de réinvestir son profit va finir par innover parce qu'il va accumuler un certain capital et il va pouvoir se servir de ce capital-là pour construire quelque chose. Si tout le profit excédentaire est absorbé par le roi en haut, tu es dans une possibilité que tu n'as jamais de place à l'innovation. Puis ton niveau de motivation est aussi extrêmement faible à développer ta propre entreprise qui est à terre d'une certaine façon.
Oui, mais ça, c'est là le spot difficile. C'est... Il y a une analogie qui est connue, c'est le bandit stationnaire puis le bandit itinérant. Le bandit itinérant, c'est celui qui se promène puis aléatoirement décide qui attaque. Et dans ce cas-là, ce que tu sais, c'est comme aléatoirement, tu pourrais te faire attaquer par quelqu'un, ben tu fais moins d'investissement. Le bandit stationnaire, c'est celui qui dit « Je vais te protéger contre les bandits itinérants, mais tu vas me donner une cote de tous tes profits. Ben, »
La mafia.
Dynamiquement, la
le
mafia.
Gouvernement, pense... surtout.
le gouvernement, c'est le bandit.
C'est ça, la mafia.
Dans l'analogie qui vient de Mansur Olson, le bandit stationnaire, c'est l'État. Dans le sens que, oui, il va t'envoler, mais il produit aussi quelque chose en même temps pour vrai. Il y a un échange de services qui est fait, mais ça, c'est arrivé. Comment tu fais pour l'avoir, ton bandit stationnaire qui n'est pas. Exactement, un bandit itinérant qui est un bandit stationnaire, mais aussi tu sais, qui produit vraiment les services que tu as besoin, la protection, tout ce qui pourrait qualifier de bien public ou de gestion des externalités. Comment tu fais pour l'avoir? Ça, c'est la grosse question qui est vraiment très difficile à répondre. Puis ma réponse que moi, je donne souvent, c'est que c'est possible que des fois, ça soit juste un accident de l'histoire. C'est possible que des fois, il y ait des caractéristiques d'un événement qui était tellement unique que ça a permis à cette chose-là
d'émerger. Est-ce qu'on s'en va vers la théorie de l'évolution dans le sens que on sait comment ça marche un peu, la théorie de l'évolution? On a toutes sortes de mutations dans notre corps qui se produisent sur des générations. Il y en a qui ne fonctionnent pas, des handicaps par exemple, puis finalement, les gens qui sont pris avec cette mutation-là ont de la difficulté à survivre. Mais d'autre côté, il y a une mutation qui est bénéfique pour l'organisme qui a eu cette mutation-là. Ça amène plus de reproduction, puis éventuellement, ça s'implante éventuellement. En économie, comme c'est un jeu d'essais-erreur beaucoup, d'une certaine façon, ben les trucs qui ont fonctionné vont perdurer dans le temps, puis tout ce qui n'aura pas fonctionné au fil du temps va avoir tendance à disparaître.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je trouve le danger...
Oui, vas-y, Frank.
Mais j'allais dire, pour revenir précisément sur la question qui était posée par Antoine, le danger quand tu fais de la généalogie, là, si on veut, mais des idées, là, c'est que tu essaies de remonter à un point original duquel tu ferais découler tout le reste. Ça, c'est vraiment le bout qui est difficile l'analyse de l'histoire, parce que si on sort 3 secondes de sa question, puis on prend un autre exemple, là, je te dirais, c'est quand est-ce que les humains ont arrêté de croire que le soleil tournait autour de la Terre? Là, tu vas me dire, c'est Galilée en 1610 qui a découvert l'héliocentrisme. Mais c'est pas vrai. Tu as plein d'exemples dans la Grèce antique. Regarde, je vous le partage à l'écran. Un gars en moins 300 avant Jésus-Christ qui s'appelle Aristarque de Samos. Il avait créé ce système-là. Il dit, regarde, le soleil est là, la Terre est ici, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du soleil. Mais lui, il avait pensé à ça à l'époque des Grecs. Mais la vraie question, c'est pourquoi, sachant aujourd'hui que ça, cette hypothèse-là est vraie, a-t-elle été ignorée pendant plus de 1000 ans avant finalement d'être remis au goût du jour par quelqu'un d'autre qui finalement est reconnu aujourd'hui par l'histoire comme l'inventeur de telle affaire? Parce que c'est pas vrai là, que les humains avant Galilée croyaient tous qu'on vivait dans un système géocentrique. Bon, la majorité ne se posait pas ce type de questions-là, mais mettons parmi les scientifiques. Là. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on fouillait partout dans l'histoire, on retrouverait probablement des documents ou des chartes qui remontent aux Égyptiens ou à je ne sais pas qui diraient « Hey, regarde, si tu regardes, ça aussi, ça donne de la place à l'individu. » Mais la vraie question, c'est pourquoi et quand ces idées-là, à un moment donné, collent puis s'imposent puis deviennent une réalité. Moi, c'est là que je trouve que ça devient difficile, parce que si plus tu creuses, plus tu... Puis là, j'ai pris cet exemple-là, mais si ça se trouve, peut-être que dans d'autres écrivains antérieurs à ça encore, d'autres mathématiciens, eux aussi avaient pensé à cette même affaire-là que Galilée est arrivé avec 1000 ans, 1500 ans plus tard.
Ça peut-tu être juste que, justement, ça a été mis en place, qui est une forme d'essai, éventuellement, puis qu'assez rapidement, on a eu des bénéfices au point de vue de l'innovation puis de la productivité qui a fait en sorte qu'on n'était plus capable de s'en passer, de cet individualisme-là?
Mais je dirais, je veux dire quelque chose, parce qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est que quand on dit pourquoi l'Angleterre relativement au reste de l'Europe, mais on est pas mal sûr de pourquoi l'Europe, en général, était plus riche. La chose qui est assez unique à l'Europe, c'est le fractionnement des pouvoirs. Tu regardes la carte de l'Europe vers, disons, 1400, c'est excessivement fractionné. Ce qui fait en sorte que t'as pas des grandes monarchies, t'as des monarchies qui... Puis non, c'est pour ça que les cartes vont être très trompeuses, parce que même à l'intérieur d'une monarchie, donc disons le roi de France, t'as des barons, t'as des ducs, t'as des gens qui ont des niveaux de pouvoir différents, qui se contrebalancent entre eux. Et donc, t'as ce fractionnement du pouvoir fait en sorte que t'as une expérimentation sur les institutions qui se font en Europe. Mon collègue Marc Koyama parle de persécution et tolération. Il dit ce qui se passe, c'est que tu as de l'expérimentation, mais tu as, en fait, l'autre terme, c'est le miracle européen, et c'est dû à ce fractionnement-là du pouvoir, du fait que tu n'avais pas un empire centralisé. Quand tu compares avec les autres empires, généralement, un empire, c'est très clair historiquement que ce n'est pas associé à des tendances de long terme. La Chine, l'Inde, l'Empire des Mongols, peu importe comment tu essaies de les regarder, généralement, les empires, sont pas associés à des gains de bien-être. En fait, généralement, c'est les empires, c'est généralement une des nations un petit peu plus pauvres à la périphérie d'un empire riche qui s'attaque à une société qui est beaucoup plus riche et finalement finit par l'absorber. C'est le cas des Mongols, mais aussi c'est le cas des Romains. Les Romains étaient plus pauvres que les Grecs. Mais les Grecs, ce qui avait fait la fortune de la Grèce, c'était les cités-États qui étaient très limités, qui avaient des petits espaces. Et donc, ils se compétitionnaient entre eux. Tu avais tout le temps une sorte de contre-pouvoir qui existait. Mais tu avais aussi le fait qu'il y avait des incitations à ne pas trop faire la guerre. Parce que si tu attaquais une ville, tu ne peux pas facilement saisir ses actifs. Tu ne peux pas facilement saisir ses ressources naturelles parce qu'il y avait des ressources qui dépendaient beaucoup du capital humain des gens. Donc, si tu faisais de la guerre trop souvent, en fait, tu tuais des gens qui avaient du capital humain qui était important pour utiliser les ressources en particulier. Donc, tu avais une espèce de contrebalancier qui existait en Grèce. Mais quand les Romains ont finalement conquis la Grèce au complet, l'histoire s'est arrêtée à ce moment-là. L'histoire de succès de la Grèce antique s'est terminée à ce point-là. Et tu as eu un renversement de tendance. Fait qu'on sait ça, la chose qu'on est, on a de la certitude, c'est que des gros États centralisés peuvent pas être l'explication. Ça doit être quelque chose dans la catégorie de l'importance des contraintes sur l'exercice du pouvoir politique. C'est probablement l'explication la plus importante. Le problème, c'est qu'une fois que tu as dit ça, tu ne sais pas c'est en quelle proportion. C'est comme si tu imagines une recette que tu essayes de faire. Tu ne sais pas quelle quantité de farine il faut que tu utilises, combien d'œufs il faut que tu utilises. Fait que si tu essaies de départager après pourquoi l'Angleterre, ben là, c'est quoi le rôle de la géographie? C'est quoi le rôle? Est-ce que la géographie, puis là, tu complexifies tout en disant qu'il y a possibilité de récursivité entre les choses, que la géographie renforce les institutions ou les institutions renforcent des particularités géographiques. On sait, par exemple, que les sociétés qui ont des environnements de pathogènes beaucoup plus importants, donc il y a plus de maladies, maladies infectieuses, ont des États beaucoup plus gros. Et historiquement, ont des États qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus autoritaires, parce que l'environnement est conducive, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, ductile, ce serait ça que je me dirais, là. Qu'il y a une ductilité de que l'environnement cause pour des États plus autoritaires que dans des endroits à des géographies différentes. Par exemple, on remarque souvent que la grande majorité des démocraties libérales sont dans des endroits très froids. On a aussi une thèse de Jared Diamond, par exemple, que les empires ne peuvent jamais s'étendre de nord en sud parce que les technologies pour maintenir un empire change beaucoup en fonction de la latitude, ouais, mais pas de la longitude. Je pense que j'ai inversé les deux. Ouais. Tu peux déplacer les technologies plus facilement d'est en ouest que de nord en sud. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Puis là, c'est à quel point chacune de ces thèses-là, qui théoriquement ont l'air valides, sont applicables ou sont pertinentes. Puis là,
y a-t-il un problème qui vient du biais de chacun des chercheurs qui sont ultra spécialisés dans le domaine, qui essaient de répondre à cette question-là, vont avoir un biais de leur propre formation? De leur côté.
Ben, c'est sûr que oui.
Et dans le sens qu'il y a très peu de généralistes qui font de la recherche universitaire. Ben,
c'est parce que la somme des savoirs, Yann, qui est nécessaire à étudier ce genre de questions-là est quand même assez élevée, là.
Exact.
Et puis, tu as un autre classique quand même, là, même si ça a un peu vieilli, là, mais tu as le livre de Max Weber, là, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
Non, ça, là, c'est le livre que j'aimerais qu'on crisse aux poubelles le plus rapidement possible. Sérieusement, là, ce livre-là, il y a le nombre d'articles que les économistes ont pitché à cette affaire-là. Que, en gros, là, ça, c'est l'éthique protestante, que les protestants travaillaient plus. Il y a juste un protestant qui n'a jamais vu c'était quoi des catholiques pour dire des niaiseries comme il est écrit dans ce livre-là.
Okay? Ouais, mais il n'y a pas juste ça qui est écrit dedans.
Ouais, mais son point fondamental, c'est qu'il y a une éthique qui vient avec. Puis c'est une question de valeur, la manière dont il voit. Oui, il y a une partie de réponse aux socialistes, à la Werner Sombart, puis tout ça, mais ça, c'est pas important. Là. L'éthique protestante, là, quand l'idée a été systématiquement rejetée, même à l'intérieur de l'Allemagne sur laquelle Weber écrivait, quand tu compares, par exemple, avec là, l'idée, c'est que les protestants épargnent plus, les protestants travaillent plus, mais quand on regarde, par exemple, tu as regardé les taux d'épargne en Allemagne à la même époque que Weber écrivait, il n'y a pas de différence entre les Allemands catholiques et les Allemands protestants sur les taux d'épargne, sur le travail, sur le revenu. La différence à l'intérieur de l'Allemagne en général, qui inclut beaucoup de Polonais catholiques, est entièrement déterminée par la présence des Polonais qui sont juste comptés comme des catholiques, mais sans tenir compte du fait, par exemple, que l'État discriminait ouvertement contre les Polonais au lieu, mais pas contre les catholiques allemands, juste contre les Polonais qui étaient accidentellement catholiques. Chaque fois qu'on attaque ces choses-là, il y a un autre article qui est bien connu qui le dit très clair, « Was Weber wrong? » Puis c'est dans le top journal de la profession en économie, il dit « Non, la seule raison, c'est parce que l'imprimerie a émergé en Allemagne en premier, s'est diffusée plus rapidement en Allemagne, et ça veut dire qu'il y a eu plus de capital humain qui s'est accumulé historiquement en Allemagne, et les protestants étaient à haut capital humain à cause de l'absence de monopole sur l'imprimerie. » Donc là, en toute fin de pratique, tu es en train de dire que la bonne qualité des institutions que tu as, disons, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, vient du fait que il n'y avait pas de monopole qui était créé par l'État sur le métier d'être imprimeur. Et le résultat de ne pas avoir de monopole a fait en sorte qu'il y avait une population plus éduquée qui faisait des meilleures institutions elles-mêmes. Donc là, tu vois, il y a comme deux rounds. C'est que historiquement, même une bonne institution loin derrière peut avoir un effet sur les institutions maintenant et donc sur la croissance économique. Donc là, tu te retrouves avec plein d'affaires qui ne sont pas explicables. Mais Weber, là, c'est le livre que lui, Marx, puis je te dirais l'autre, là, l'italien crinqué, Gramsci, c'est les trois penseurs que si on pouvait juste pas mal oublier qu'ils ont existé, la perte de savoir humain serait limitée. Je suis sérieux, là. Le savoir que ces trois individus-là ont
généré... Mais ça vient woke, il veut brûler des livres, là.
Non, mais je dis pas les brûler, juste les oublier qui ont existé. Parce que ces trois livres, ces trois auteurs-là, l'expression en anglais, c'est « more heat than light ».
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ces livres-là ou ce qu'on a retenu de ce qu'on a dit que ces livres-là disaient? C'est tout le temps ça, l'affaire, là. Parce qu'on fait dire à des auteurs souvent ben des affaires, puis moi, le trois quarts des gens que j'ai entendu parler souvent de ben des auteurs, ils les ont jamais lus.
Ouais,
c'est un classique. Il y a ça aussi, l'histoire, là-dedans. Mais ça, parce que quand tu regardes, il y a ben des affaires qui sont dites là-dedans, je veux dire, ça rejoint d'autres trucs que tu as dit. Pour Weber, il y a plusieurs conditions à l'émergence du capitalisme moderne. Un, la séparation de l'entreprise et du ménage, donc de la famille. L'organisation rationnelle de l'entreprise. La comptabilité rationnelle et le travail libre. On peut sticker sur d'autres affaires, mais il y a quand même des trucs qui ont été dits que, je veux dire, c'est, tout le monde a dit.
Ouais, mais ça, je peux le retrouver dans Mills. Je peux le retrouver dans... Je peux le retrouver dans Sidgwick. Je peux le retrouver dans Mantoue. Je peux le retrouver chez Johnson. Je peux le retrouver chez plein d'autres philosophes, historiens. J'ai pas besoin de Weber. Ouais. Weber, en fait, honnêtement, je me souviens de l'avoir eu à lire à l'université. C'était pas l'éthique. J'ai lu l'éthique protestante plus tard, mais c'était quoi son nom? J'ai oublié maintenant, là, mais c'était sur les idéal types. C'était comme, on avait-tu vraiment besoin de toi particulièrement pour dire ça? Il y avait d'autres mondes qui le disaient avant. Il y avait des trucs comme ça chez Jean-Baptiste C. Il y avait des trucs comme ça chez Bastiat. On avait... Just go away.
Moi, je vais renchérir un peu. On va avancer un peu dans le temps.
Frank, je suis prêt à éliminer Weber de ma liste, mais Gramsci puis Marx, je suis correct à ce qu'ils disparaissent. On les oublie.
Ils ne disparaîtront pas, Vincent. On arrive un peu plus dans le temps. Tu sais, justement, la plupart des guerres, quand tu regardes avant 1900, puis évidemment, on mettra les deux guerres mondiales là-dedans éventuellement, c'était beaucoup des guerres pour grandir l'Empire. J'avais l'impression qu'on avait besoin de ressources naturelles d'un autre pays, d'un autre contrée. Le but, c'était d'aller saisir ces ressources-là. L'économie moderne, ce qu'elle a permis, c'est d'augmenter les échanges entre les pays. L'amélioration aussi du transport et tout ça a certainement aidé. Disons, on a l'impression, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que des guerres pour construire un empire, il y en a eu, mais c'est quand même marginal. T'sais, même, on regarde qu'est-ce que la Russie essaie de faire avec l'Ukraine, puis tu te rends compte que ça devient même très difficile de saisir un territoire. Puis l'intérêt n'est pas tant là non plus de saisir les territoires pour vrai, puis c'est pas une question de ressources naturelles non plus. Mais on dirait que l'économie moderne a permis littéralement d'éliminer ce type de guerre-là. Une guerre pour la construction d'un empire, pour aller saisir des ressources naturelles. C'est pas mal plus facile d'acheter la ressource naturelle à la personne qui la détient que d'aller se battre contre ce pays-là pour saisir ses ressources naturelles. Fait que c'est-tu réellement le capitalisme qui a permis de sortir un peu de ce schéma de pensée-là de la construction des empires?
Il y a vraiment une grosse thèse qui est défendue depuis longtemps par le sociologue Peter Berger, mais aussi par Eric Garksky, qui est un politologue à University of California, Los Angeles, je pense. Peu importe. Ça s'appelle la paix capitaliste. Et l'idée, c'est qu'il y a deux dimensions à ça.
Vincent, il va m'haïr, mais en fait, la personne qui est à l'origine de tout ça, c'est quand...
Un socialiste. Ah, je pensais d'aller dire Norman Angel.
Parce que je sais qu'il n'aime pas les philosophes allemands, mais à la base de tout ça, c'est un texte de Kant qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle ». Il parle justement comment les relations internationales dans des démocraties amènent justement la paix dans la guerre.
Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal de reconnaître une dette à des philosophes allemands. C'est dur pour moi. Parce que pour les auditeurs qui sont pas habitués, « If it's not Scottish, it's crap ». c'est la règle pour moi en philosophie. Mais la paix capitaliste, c'est l'idée qu'il y a deux dimensions qui fait que plus d'échanges te rend moins susceptible de faire la guerre. La première dimension, c'est que tu deviens juste interdépendant avec l'autre. La deuxième, puis ça, c'est la partie que... Puis ça, les gens ont ri beaucoup de celle-là à cause que quand ça a commencé à être dit, c'était juste avant la Première Guerre mondiale. Puis tu avais des gens comme Norman Angel qui disaient avec les échanges qu'il y a sur la surface de la Terre, il n'y en aura plus de guerre, c'est fini les guerres. Puis genre, le lendemain, ça y pète en face. Là. Mais tu sais, genre, ça y pète d'en face comme faut. Mais l'autre dimension qui est avancée, qui est assez importante, c'est que dans les sociétés super riches, la croissance ne dépend presque pas des ressources naturelles. Elle dépend largement du capital humain. Le problème, c'est quand tu saisis le territoire d'une nation, ça ne veut pas dire que tu saisis le capital humain qui est imbriqué dans l'intérieur des individus. Essentiellement, le capital humain n'est pas appropriable par les dirigeants. Et ça fait en sorte que ça réduit pas l'offre de conflit, mais la demande de faire des conflits. Donc, l'idée dans le mécanisme, c'est que si tu t'imagines un dirigeant qui se dit « ben le bénéfice pour moi de gagner le territoire de l'autre, la courbe de demande pour moi a diminué. Chaque extra kilomètre que je gagne ne me rapporte pas autant parce que la richesse est imbriquée à l'intérieur des individus. Et s'ils décident de ne pas collaborer avec moi, ben je ne pourrais rien faire. » Donc, l'idée, c'est que dès que la croissance économique a émergé, a commencé à se faire, le rôle du capital humain, de l'éducation a augmenté. C'est pour ça que on parle des tensions entre la Chine et les États-Unis, mais il n'y a personne qui considère sérieusement que la Chine va envahir les États-Unis ou vice-versa. Tout simplement parce que, demain matin, Red Dawn se produit, le grand film de 1984 avec Patrick Swayze. Il y a une invasion, il y a des parachutistes communistes qui atterrissent dans mon jardin. Même s'ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça ne veut pas dire que moi, je vais collaborer avec le régime. Je pourrais juste dire, je vais faire une job de...
Il n'y a rien à saisir aux États-Unis, en termes de matériel.
Ce qui est dans ma tête, puis non seulement ça, mais ce qui est super pénible avec le capital humain, puis ça marchait d'ailleurs quand tu regardes l'histoire de l'esclavage. Quand tu avais des esclaves avec des hauts capital humains, les maîtres, les propriétaires, utilisaient rarement la violence contre eux. Tout simplement parce que la violence permet... Tu peux pas contrôler son comportement.
Imaginez Xi Jinping essayer de forcer Elon Musk de travailler pour lui.
Ben, c'est exactement. Ouais. Mais l'idée, c'est que généralement...
Ça n'arrivera pas!
Mais généralement, pour que ça fonctionne, d'extraire forcément quelque chose de quelqu'un qui a beaucoup de capital humain, il faut que tu alignes ses incitations sur toi beaucoup plus. Et ça se fait à très petite échelle. Ça se fait à très, très petite échelle parce que tu ne peux pas essayer d'avoir un système dans lequel tu fais ça pour tous les individus que tu as mis en coercition. C'est pour ça, par exemple, que Je reprends l'exemple des esclaves, parce que ça s'explique super bien. Les maîtres décourageaient l'accumulation de capital humain chez les esclaves. S'il y en avait un ou deux qui en avaient, c'était correct, mais s'il y en avait trop, ça devenait trop coûteux de faire la supervision. Donc, c'était mieux que ça soit un ou deux, puis que tu leur dis, je vais peut-être te donner ta liberté. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, si tu n'avais pas le droit, dans certains cas, sauf à ta mort, de libérer des esclaves. Mais disons, dans des sociétés comme la Grèce antique ou Rome, tu avais un système dans lequel tu disais, je vais te donner ta liberté. Comme ça, tu vas travailler plus efficacement parce que si je te laisse, si je te donne cette promesse-là, je te laisse travailler un petit peu à côté, tu peux accumuler de l'argent puis me payer éventuellement pour acheter ta liberté. Donc, je vais donner le droit de m'acheter ta liberté. Mais ça, dans ce système-là, c'est coûteux pour lui de faire ça parce qu'il se prive du labeur de la personne, mais aussi, il faut quand même qu'il supervise le travailleur, il faut quand même qu'il check qu'est-ce qu'il fait exactement.
L'augmentation du risque de rébellion qui est assez importante.
C'est ça. Faut pas que... Oui, il y a ça aussi, tu leur permets de coordonner plus facilement, mais dans ce cas-ci, tu peux pas le faire à vaste échelle. Tu peux juste le faire à très petite échelle. Fait que c'est pour ça que tu peux prendre cet exemple-là comme analogie puis l'appliquer au conflit entre nations. C'est très coûteux pour des nations. C'est pas très bénéfique pour des nations d'essayer d'envahir une autre nation si la nation conquise a énormément de capital humain, parce que si tu gagnes, tu ne peux pas saisir la nature productive de la ressource qui est dans la tête des gens. En tout cas, pas aussi facilement.
Ouais.
Ouais, demain matin, on essaie d'envahir un pays comme l'Irak, par exemple. Tu dis, OK, pour une question de pétrole, ça peut se défendre parce que le capital humain est moins productif en Irak. Mais même à ça, c'est de moins en moins vrai plus on avance dans le temps. Ils finissent par être capables de produire, d'avoir de l'output aussi qui est en dehors du pétrole de leur côté. Fait que plus ce type de pays-là va s'enrichir ou va sortir de la pauvreté puis va avoir une population qui s'éduque également, bien, l'intérêt d'aller saisir la ressource est de moins en moins pertinent.
Oui, puis en plus, écoute, ouais. Juste l'exemple de l'Irak, j'ai toujours trouvé que c'était stupide, cette affaire-là, War for All. C'est assez clair que les gens qui voulaient faire ça, c'était peut-être plus des motivations de politique électorale que autre chose. Là. C'était beaucoup plus ça que « let's grab the oil », parce que le gars en qui j'ai envoyé l'article tantôt à Frank, Eric Gatsky, lui, il a un autre article, il faudrait que je le retrouve, mais il calcule les différents coûts de la guerre en Irak. Je pense que c'était Joe Stiglitz qui avait fait ça. Non, c'est pas important. Il avait trouvé que l'extra production qui venait d'avoir enlevé l'ancien monopole de la société d'État qui était en Irak, cette extra production-là valait moins que juste l'eau qu'il fallait que tu apportes aux soldats qui étaient en charge de l'occupation du territoire. Donc, si vraiment le gouvernement américain avait envie de donner de l'argent aux compagnies pétrolières, il aurait juste pu donner la dépense
Ça vient démolir une grande partie des thèses avancées par à peu près tout le monde sur la planète. Ben,
c'est parce que c'est pas mal moins coûteux de les corrompre, là, premièrement.
Effectivement.
Je veux dire, mettons que je te dis, hey, je sais pas moi, le Gabon, ils ont des ressources naturelles incroyables, fait qu'on s'en va là-bas avec une cargaison, des tanks, puis tout. Ben, d'après moi, c'est pas mal moins compliqué d'envoyer de l'argent au potentat qui est là pour essayer de les corrompre justement pour avoir ce que tu veux. Je sais pas, là, me semble pas mal tout le monde a compris ça.
Mais
moi, j'ai jamais vraiment cru à ça. Là. La thèse de genre, on débarque là-bas, les pertes humaines, je veux dire, les familles endeuillées, toute la merde que ça fait. Après ça, tu gères des soldats avec des syndromes post-traumatiques pendant des décennies. Tu sais, je veux dire...
Mais en fait, l'idée, c'est qu'il faudrait que... La raison pour laquelle il faudrait que ça fonctionne, il faudrait imaginer que... Puis dans la perception de plusieurs de ces personnes-là, puis ça, c'est vraiment de la théorie du complot. Là. Ici, ça rentre. Le War for All, c'est pour moi, c'est théorie du complot. Parce qu'il faut que tu ailles plusieurs trucs vraiment débiles. Un, il faut que tu ailles une hiérarchie dans laquelle les exécutifs des firmes de production de pétrole sont au top de la hiérarchie. De un. De deux, que les politiciens soient sous-servients à ces individus-là, qu'ils les écoutent, qui sont en tout fait des Manchurian candidates, des gens qui sont sélectionnés en amont par les compagnies pétrolières. Et que, non seulement ça, mais qu'eux le font soit parce qu'ils reçoivent des profits gigantesques qui leur est donné par les compagnies pétrolières après, ou bien qu'ils le font juste parce que ce sont des gens faibles qui ont décidé de se prosterner devant les compagnies pétrolières. Mais n'importe qui prend deux secondes de réalité voit que ça ne peut pas faire vraiment de sens, ces trois hypothèses-là. Un, la moitié des boards des compagnies pétrolières privées qui existent dans le monde, ils ont des actionnaires. Les actionnaires peuvent se rencontrer, peuvent voter, puis élire, puis changer le management. Tu peux faire des takeovers des firmes sur les marchés des capitaux. Ils sont tous sur des marchés publics. Donc, c'est très difficile à imaginer qu'ils sont capables, dans un contexte où ils peuvent être éjectables, sont capables de faire de la coordination comme ça. Deux, les politiciens, je veux dire, même s'ils étaient corrompus à des niveaux gigantesques, il n'y a aucun signe que George Bush est riche parce que c'est ça. Ou même qu'il faudrait qu'il y ait même 0,01% de la richesse mentionnée. Ferait en sorte que ça ferait probablement de lui l'un des hommes les plus riches aux États-Unis. Il n'est même pas dans le top 10 000. Okay? Ça tient pas la route. Il n'était déjà pas dans le top 10 000 avant avec la base.
On s'entend que la richesse des politiciens américains, ben des présidents américains, est souvent établie avec la publication de livres puis les conférences et ces affaires-là. Là.
C'est parce qu'après, ça devient des rockstars.
Ben, c'est généralement ça. Ben, quoi que ça fonctionne pas tant que ça pour tous les politiciens, là, Barack Obama a été une rockstar post-carrière. George Bush complètement disparu de la surface de la Terre. Là,
Il va voir les Rangers du Texas de temps en temps. Le
Joe. Mais ça, une de mes, je pense que je l'ai déjà raconté, une de mes anecdotes préférées de ça, c'était George Bush qui était dans un, je me souviens plus si c'était à Letterman, en tout cas, peu importe, il était allé dans un show de variété là, où pas longtemps après l'élection d'Obama, puis l'animateur disait, puis c'est comment la vie maintenant que vous n'êtes plus président? « Ah, c'est le fun, je fais mes affaires dans mon ranch, là, puis je profite de la vie, puis je fais mes petites affaires. » J'ai dit, « Je suis là, j'ai des rénovations, fait que j'achète mes matériaux, je fais mes affaires. » Puis le gars, il dit, « Est-ce que vous vous faites reconnaître parfois? » Là, il dit, « Ouais, justement, l'autre jour, je suis allé dans un genre de quincaillerie acheter des matériaux, puis il y a un gars qui me regardait, puis un moment donné, il vient me voir, puis il me dit, « Hey, vous, là, vous ressemblez vraiment à George W. Bush. » Il fait, ah ouais, c'est la première fois qu'on me l'a dit. Puis il dit, non, mais faites-vous-en pas, jamais je vous comparerai à ce hassle-là.
Je suis sûr que ça ne s'est pas passé.
Je suis reparti avec mes affaires. Puis
je suis sûr que ça ne s'est pas passé parce que les anciens présidents ont toujours
il y a un cortège.
Il y a toujours, non, mais ils ont toujours du staff avec eux qui.
Oui, Secret Service, c'est pas fini après.
C'est pas fini.
J'avais bien aimé le trait d'humour, pareil.
Là, mais pour vrai, mais Brian Mulroney comptait la même histoire. Puis j'ai vu deux speeches dans ma vie de Brian Mulroney. Puis il compte tout le temps la même histoire. Mais c'est tout le temps dans des contextes différents. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que. C'était le moment que j'ai déchiré. Il y a beaucoup de fake. Il avait conté la même histoire, mais c'était deux contextes complètement différents. Tu voyais que l'histoire avait été tweakée. Peut-être que ça s'est vraiment passé, mais que ça avait été tweaké pour l'auditoire auquel il s'adressait. Puis c'était, je suis rentré dans un ascenseur.
C'est des acteurs, là.
C'est des acteurs, pour vrai. C'est des choses comme ça qui m'ont fait, parce que je l'ai vu de première main. C'est que pourquoi tu mentirais sur quelque chose d'aussi trivial que ça? Fais juste dire, ça me rappelle une histoire un peu similaire que. T'as juste dit ça, puis c'est réglé. T'as pas besoin de changer les détails de l'histoire pour que ça soit...
Mais ce que j'aime de George, c'est probablement un de ceux dans l'histoire moderne qui a le mieux respecté un devoir de réserve après avoir fait son temps. Il a été quand même assez tranquille après son règne. Puis c'est
Jimmy Carter aussi. Jimmy Carter était très tranquille post-carrière.
Il fait plus de charité
qu'autre chose.
Exact. La bio que j'ai lue de Jimmy Carter, c'était sur son après-carrière, puis c'est assez impressionnant tout ce qu'il a essayé de faire. Vraiment, il s'est développé un réseau de philanthropie assez grand. Puis il a fait... C'est ça qu'il doit faire. Sérieusement, tant qu'à avoir la notoriété, pourquoi pas l'utiliser pour une bonne cause,
ouais.
À un moment donné...
Au moins pour réparer les dégâts que tu as fait comme président.
Ouais, c'est ça.
Mais, il n'a pas eu le temps d'en faire beaucoup, lui.
Et dans le cas de Jimmy Carter, je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres candidats qui voulaient tant que ça avoir son appui. C'est peut-être ça aussi. Là. Il s'est peut-être proposé, puis il n'y a peut-être personne.
Ouais, c'est vraiment un des présidents les plus mal aimés du 20e siècle. Parce que, je pense que c'est juste le malheur de la période auquel il était président. Ouais. Pour vrai.
Parce que,
il n'était pas particulièrement mauvais. En fait, il a fait des bonnes choses. Il a fait de la déréglementation du secteur aérien. C'est lui qui a nommé Paul. Si je me souviens bien, c'est pas Reagan qui a nommé Paul Volcker, c'est lui. Okay. C'est sous lui que la contraction monétaire s'est faite.
Qui a pas été. Ça a de loin été le meilleur boss de la Banque centrale aux États-Unis, Volcker. Là. De loin.
De loin. Je dis pas qu'il est très, très bon. pour vrai, là, je veux pas embarquer dans un débat de politique monétaire. Mais je pense pas que Volcker était si bon que ça, mais...
T'as Volcker, là, puis t'as Greenspan, puis Bernanke, puis...
Ouais, mais ça veut pas dire qu'il est à la barre de passage de ce qu'on devrait s'attendre. mais je suis prêt à dire...
Faut juste zoomer dans le graphique, là.
Je suis prêt à accepter le ranking ordinal, mais pas le ranking cardinal. Ouais. Je pense qu'il est vraiment beaucoup plus bas en temps d'avance, mais relativement aux autres, surtout à...
En train de dire que Janet Yellen était meilleure que lui.
Elle était poche en maudit.
Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des...
Elle, j'ai encore fâché qu'elle ait été nommée au Trésor. Ce qu'elle faisait à la Fed, là, je veux dire, c'était juste un désaccord d'économiste là-dessus, puis fine. Mais le fait qu'elle a accepté après de passer d'un rôle administratif au rôle politique, ça attaque
l'institution quand ils font ça.
Oui, mais ce qui m'a encore plus fâché, c'est le reste de la profession. Le reste de ma profession, là, à part une poignée comme moi, il n'y a personne qui a batté un cil. Il n'y a personne qui a comme fait « Ah oh ouais, c'est problématique, ça peut être un mauvais précédent ou quelque chose comme ça. » Non, c'est correct. Ça, là, c'est la frustration. Puis la raison, c'est qu'elle est mariée à un prix Nobel, George Akerlof. Elle est très influente dans la profession. Ils sont toute une pratique. Yellen, Akerlof, c'est de la royauté en économie. Il n'y a pas de manière de se le mentir. Ce sont des gros noms dans la profession. Puis il y a des gens qui se prosternent devant eux, mais je m'excuse, mais autant que j'aime ça faire des jokes, que je suis élitiste puis que je voudrais être empereur, mais toute royauté est nécessairement mauvaise. Si tu presses juste sur la base d'un statut qui est hérité d'une certaine manière ou que tu ne questionnes pas à cause de ça, le malaise que des gens ont accepté juste qu'elle soit nommée comme ça puis qu'il n'y a personne qui a dit, ben peut-être juste, pas du tout sur la base de la compétence, mais sur la base du précédent qui est établi, ouais. Peut-être qu'on devrait être contre. Ça ne veut rien dire contre elle. Ça ne veut rien dire contre sa recherche. Ça veut juste dire que c'est un vraiment mauvais précédent. Puis là, elle est dans les médias, puis elle dit des lignes qui sont clairement des lignes politiques qu'un économiste moyen ou un gouverneur de la Banque centrale n'aurait jamais, jamais dit. Puis tu peux dire qu'elle porte un différent chapeau puis qu'elle fait juste adapter au nouveau chapeau. Fine! Mais là, moi, la question que je me pose, tout le temps dans le fond de ma tête, c'est est-ce qu'elle avait vraiment enlevé ce chapeau-là au complet avant de prendre ce job-là? Ouais, ou est-ce qu'elle avait eu ce chapeau-là en partie avant? Est-ce que quand elle était à la Fed, est-ce qu'elle répondait aux pressions politiques ou elle était vraiment indépendante?
Ben,
ou
est-ce que maintenant, présentement, avec la grade en Europe, tu commences à te demander pourquoi quelqu'un qui a fait autant de politique dans sa vie s'est ramassé là?
Mais moi, je commence à penser que dans ce monde politique-là, à un moment donné, la job la plus dure, c'est la première. Et après ça, un coup que tu as assez taponné dans le milieu, tu finis. Tu peux finir par te ramasser n'importe où, là, finalement. Là, tu sais, parce que, elle a fait ses grades en politique française, a mené par concours de circonstances, a été ministre de l'économie. Donc, vu qu'elle a été ministre de l'économie ou ministre des finances, je ne sais plus comment ils nomment les trucs là-bas, là, ben ça devient que tu es crédible pour avoir le poste qu'elle a actuellement.
Elle était au FMI avant.
Ben c'est ça, mais là, c'est comme de fil en aiguille. Ben, c'était la même affaire pour, moi, j'ai entendu des débats avec Dominique Strauss-Kahn, puis c'est pas juste qu'il s'est pris les pieds dans sa bite qui est son problème. Là. Je suis désolé, là, il en disait des conneries. Là. J'ai vu des débats de lui face à Sarkozy dans le temps, puis t'étais comme, OK, Sarkozy, c'est pas mon préféré, mais l'autre, il est vraiment dehors de ses pompes. Là.
Non, mais il faut toujours un clown pour nous faire remarquer un autre clown.